Libre à Dieu. Un regard courbe sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org.
Nous sommes vendredi 30 avril. Nous allons parler médias, presse. Aujourd'hui, en compagnie du Colvert du Peuple. Le site internet, ça se trouve à l'adresse suivante, www.lecolvertdupeuple.ch, tout ça en un mot. Bonjour à vous, Colvert.
Salut.
Alors, évidemment, coin. Parce que j'ai bien compris que l'idée, c'était que vous répondiez de manière collective et pour le Colvert. Eh bien, alors, si vous souhaitez dire quelques mots de votre parcours à vous, celui qui vous a conduit à créer un journal, eh bien, on pourrait faire une sorte de petit tour de table. Et si vous ne le souhaitez pas, on irait directement à comment est née l'idée d'un journal et du titre du journal Le Colvert du Peuple.
Alors, on va faire un petit tour rapidement, sans donner de prénom ou quoi que ce soit. Moi, j'ai entre 20 et 30 ans, et puis j'ai milité un petit moment dans les mouvements écologistes. Et sociaux avant d'avoir l'idée de lancer avec des amis ce petit journal. Et puis on en est là maintenant après plus ou moins 6 ou 8 mois d'activité. On commence gentiment à avoir des retombées et puis ça fait plaisir du coup d'avoir cette petite conversation avec toi.
Très bien, je te remercie. Est-ce que d'autres personnes souhaitent, à titre personnel, d'une certaine manière, un petit peu, à donner quelques jalons des parcours qui vous ont mené à cela ou pas ?
J'ai 25 ans et j'ai un parcours assez académique. J'ai fait le collège, j'ai fait l'uni et puis j'ai découvert aussi le militantisme assez récemment. Via un mouvement écolo. Et puis, je me suis rendu compte que ce mouvement était intéressant par certains aspects, mais aussi qu'on pouvait pas tout aborder. Puis du coup, j'avais besoin d'un univers un peu plus large où on pouvait aborder pas seulement des thématiques liées au climat, mais liées à la justice sociale, à l'anticapitalisme, peu importe, un peu toutes ces luttes qui me tiennent à cœur aussi. Et c'est pour ça que je me retrouve dans le Colvert du Peuple et dans sa ligne éditoriale et que j'ai rejoint le comité de rédaction.
Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne souhaite compléter, ou en tout cas se déterminer en quelques mots ?
Je trouvais vraiment intéressant le fait de participer à un journal avec des articles qui sortent un peu de la petite musique habituelle, quoi. Et puis de justement essayer de faire un truc plus axé sur Fribourg et des problématiques fribourgeoises. Parce que c'est vrai que les journaux auxquels on a accès, il y a des articles super, mais souvent c'est sur ce qui se passe en France ou sur ce qui se passe peut-être à Lausanne ou à Genève. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire un truc plutôt axé Fribourg, parce que je pense que c'est un outil un peu nécessaire en fait pour après nourrir et faire croître des différents cercles de militants ou de gens qui se posent des questions et puis voilà quoi.
Alors tu l'as dit, et c'est bien de le préciser, vous êtes à Fribourg. Alors si j'ai bien compris, les deux axes principaux, bien entendu qu'on parle d'axes, hein, c'est de parler de Fribourg et des environs, mais bien entendu pas que, et d'avoir une posture engagée, ou en tout cas de promouvoir l'esprit critique, la réflexion et le collectif.
Confirmation.
Très bien. Il y a même un consensus, j'ai l'impression.
Alors, il y a eu le
temps
du consensus.
Très bien. Alors, www.lecolvertdupeuple.ch, c'est un journal en ligne. Est-ce que vous questionnez sur le fait de faire un journal en vrai, ou est-ce que le format en ligne vous suffit et que vous allez en rester là?
Vu comment on s'est lancé et puis Et aussi, en fait, on s'est vite confronté à la réalité du budgétaire d'imprimer ces exemplaires. On n'est jamais vraiment parti dans l'idée de faire des impressions de notre journal parce que on trouvait justement ni l'argent pour le faire, ni la matière pour remplir, même que ça soit mensuel. On aurait eu de la peine à avoir vraiment des feuillets plus ou moins épais. Donc, on est vraiment sur l'idée de faire un journal en ligne avec des parutions qui sont irrégulières et un peu comme on le sent par rapport à ce qu'on fait aussi à côté, puisqu'on travaille tous à côté de ce petit journal. Alors, il n'y a vraiment pas du tout, pour le moment, l'idée d'une fois imprimer régulièrement, en tout cas, des exemplaires. On l'a eu fait une fois au lancement pour un peu... pour faire un peu de pub pour le journal, mais c'est vraiment pas du tout prévu de continuer à imprimer régulièrement nos journaux, quoi.
D'autant qu'après, il y aurait également des frais d'expédition qui s'ajouteraient à tout le reste, à tout ce que tu viens d'énoncer. Alors, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose que l'on fasse cet entretien en deux parties. Une première partie qui est vraiment focus sur le Colvert du Peuple, et puis une partie, si vous êtes d'accord, sur le rôle des médias un petit peu plus en général. J'aimerais bien vous questionner, puis avoir votre avis sur un constat que vous feriez, une analyse que vous feriez sur les médias qui existent autour de nous. Parce que j'imagine que ça fait partie de la motivation qui vous a conduit à monter ce journal-là. Ça vous va comme ça ?
Ouais, c'est parfait.
Super.
Ok, alors, le Colvert du Peuple, la première question, elle est un petit peu obligée. Pourquoi ce nom-là ? D'où vient-il ?
Le Colvert du Peuple, il y a plusieurs choses qui sont cachées là derrière. Premièrement, on utilise souvent l'expression un canard pour dire un journal, et donc le Colvert, ça fait du sens par rapport à ça. Il y a aussi l'idée d'opposition entre le col blanc et le col vert. Même si normalement c'est plutôt le col bleu, les ouvriers, les combinaisons bleues dans les usines, etc. Mmh. Il y avait un peu l'idée d'opposer cette idée de col blanc parce que dans les médias très répandus, ça peut être un certain profil, on va dire, social, etc. Et enfin, la troisième chose, c'est la ressemblance de la sonorité entre le mot colvert et le mot colère. Ce journal, il est né aussi un petit peu d'une colère, la colère du peuple. Et le but avec ce journal, c'était de se faire un peu la voix des gens qui n'ont pas leur place dans les médias mainstream et qui peuvent être en colère.
Alors, un canard en colère, on a bien compris. Comment est-ce qu'il est né ? Quand est-il né ?
Alors, il est né le 22 août l'année passée.
Ah, joli.
Ok, donc c'est quand même une aventure récente.
Oui, c'est très récent, ouais.
Et il est né sur quoi ? D'abord un groupe d'amis, de personnes qui fréquentaient des mêmes endroits, ou c'est comment ça s'est passé ? Comment s'est produite la rencontre décisive ?
Ouais, alors je crois que c'est surtout un groupe d'amis qui s'est, comme tu dis bien, qui s'est rencontré dans des milieux assez militants, et puis qui se sont rassemblés autour d'une forme de lassitude face au panorama médiatique qui était assez homogène, je veux dire, qui adoptait toujours la même perspective sur le réel, et puis il y avait vraiment cette volonté de proposer autre chose, de mettre à disposition un autre regard sur le réel, donc un regard qui soit anarchiste, féministe, écologiste, etc. Et je crois que peu à peu, le projet il s'est fondé sur cette envie qui brûlait au fond de nous de proposer autre chose, quoi.
Très bien. Alors, un canard, c'est un journal, c'est évidemment également et peut-être même avant tout une équipe. Là, vous venez de dire un petit peu comment vous êtes rencontrés. Et alors maintenant, comment ça se passe? Vous avez comment vous êtes-vous organisé? Un comité de rédaction qui propose des thèmes. Ensuite, on fait des chapeaux un petit peu comme dans la presse. Est-ce qu'on choisit un petit peu des thèmes autour de ça? On se les distribue. Et puis ensuite, est-ce que chacun part de son côté et puis cherche des sources ou racontez-nous un petit peu comment on choisit un thème et comment est-ce qu'on le traite?
En fait, ça se fait de manière vraiment décentralisée, du fait qu'on se voit très peu de base, en fait, en vrai. Alors, les gens un peu dans leur coin écrivent leurs articles et envoient après un petit moment, ça peut être une semaine à trois mois, suivant la vitesse sur laquelle les gens, à laquelle les gens travaillent sur leurs articles. Et ces articles sont un peu... après relu par des groupes du comité de rédaction, à savoir qu'on est moins de 10 dans le comité de rédaction, donc c'est vraiment un tout petit groupe. On se relie un peu parmi nos articles, on corrige un peu, que ce soit des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit, ou justement des propos qui nous semblent un petit peu hors sujet ou problématiques, etc. Et ensuite, on les publie une fois qu'on trouve qu'ils sont prêts. Mais il n'y a pas vraiment... c'est pas très... C'est un peu le bordel pour le moment, mais ouais. ça nous va bien, quoi.
Non, et puis je pense qu'il y a effectivement ce dont vous avez parlé au début. Il y a une affinité déjà amicale et puis idéologique, politique, disons, qui fait que... D'une certaine manière, on peut éluder certaines étapes, quoi.
Je pense que si on allait au fond de tous les sujets, c'est clair qu'il y a des différences. Mais en gros, non, on est d'accord. Et puis, on ne veut pas non plus publier que des articles qui correspondent absolument à la ligne, enfin, où on pourrait signer chaque mot. Donc, ce n'est pas ça l'idée. Et puis, donc, ouais, il y a tout ce travail des articles qu'on écrit, nous. Puis après, à côté de ça, il y a les articles qu'on reçoit, que d'autres collectifs... publient ou d'autres personnes. Et puis là, généralement, on est quelques-uns à lire ça et puis on est en fait assez vite d'accord sur si on les publie ou pas, quoi.
Alors voilà, je me questionnais sur la manière dont vous trouviez un accord sur la publication ou la non-publication d'un article qui proviendrait d'ailleurs soit de vous-même, soit de l'extérieur. Est-ce que il y a des sujets ou des articles qui ont prêté un petit peu à ce que vous vous questionnez à ce propos? Et puis, si vous prenez la décision, comment vous faites? Est-ce que là aussi, vous allez au consensus? Est-ce qu'il se peut qu'il y ait débat par rapport à ça?
Pour l'instant... On s'est jamais retrouvé devant le cas d'un article qui posait vraiment problème, typiquement où une moitié des gens voudraient le publier et une autre moitié voudrait absolument pas le publier. Comme l'a dit avant mon camarade, on sait qu'on a tous des points de vue qui diffèrent légèrement sur certains sujets et du coup on cherche pas le consensus à 100% pour chaque article et on laisse aussi à chaque rédacteur et chaque rédactrice une petite marge de manœuvre pour donner son avis personnel sur tel ou tel sujet. Maintenant, on a quand même une ligne éditoriale, on réfléchit éventuellement à l'élaboration d'une charte. Surtout justement pour les articles qui viennent de l'extérieur. En tout cas, personnellement, je pense que ce serait bien d'être assez transparent justement au niveau de qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on publie pas, parce que sinon, on tombe vite dans l'arbitraire et puis dans le « Ah, ça me plaît, donc je le publie, et ça me plaît pas, donc je le publie pas ». Je pense que le but, c'est pas de publier que des trucs qui nous plaisent, mais dans ce cas, il faut quand même avoir une charte ou une espèce de ligne assez claire pour dire qu'est-ce qu'on peut publier et qu'est-ce qu'on ne peut pas publier.
Oui, parce qu'au bout du compte, on pourrait même aller très loin en disant on publie même, pour aller à l'extrême, un article de Faf auquel on apporterait la contradiction. On peut se questionner là-dessus, si est-ce vraiment utile d'offrir une tribune supplémentaire à un contenu dont avec lequel on n'est vraiment pas d'accord pour en faire un débunkage ou une critique, ou est-ce que ça reste tout de même contre-productif ? Parce que j'ai bien compris, donc vous avez tout de même une ligne éditoriale et on peut clairement dire que le Colvert du Peuple est un journal engagé. Est-ce que ça, vous avez envie de commenter ? Si je vous dis, voilà, le Colvert du Peuple, pour moi, c'est un journal engagé, ça vous fait réagir comment ?
Ouais, alors nous, on a une ligne éditoriale qui est assez claire, qui est complètement transparente. Donc, comme je l'ai dit avant, enfin, comme on l'a dit avant, c'est l'anarchisme, l'écologie, le féminisme et l'antiracisme. Et donc ça, c'est vraiment, je crois, une direction qu'on essaye d'amener vers le réel. Et donc, tous les articles qu'on publie, on attend de ces articles qui pointent quand même vers cette direction-là. Après, on est quand même assez ouverte. Et
en même temps, par rapport à ça, je pense pas qu'un faf, comme tu dis, aurait envie de publier quelque chose sur le Colvert. Enfin, je pense que, un peu malgré nous, on attire aussi des gens qui sont déjà peut-être qui se sentent déjà proches de notre ligne éditoriale, et les gens qui auront envie de poster des articles sur notre site, c'est à mon avis plutôt des gens qui se retrouvent dans cette ligne éditoriale aussi. Donc peut-être que le cas d'un article néo-nazis se fera jamais.
J'espère bien, heureusement. Non, effectivement, je suis allé un petit peu loin dans les propos que je tenais. Je pensais plus, tu vois, à voilà, une lectrice, un lecteur qui tombe dessus d'une certaine manière, qui s'intéresse à une grande variété de d'idées, qui est pas du tout d'accord avec vous, un réac, et puis qui va venir, voilà, d'une certaine manière, ben commenter et puis dire si et ça, etc., etc. Qu'est-ce que vous feriez de ça ? Cette question, elle fait partie également de la chose suivante. Donc sur le site internet, me semble-t-il, mais je vous demande parce que j'en suis plus sûr, les commentaires sont ouverts. Donc est-ce à dire que les personnes peuvent librement commenter un article et dire s'ils opinent du chef ou pas ? Ou comment est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on gère ce type d'idées qui peuvent ressortir et qui des fois peuvent être à l'opposé de ce que vous pensez ?
D'abord, si ça va pour toi, je vais juste répondre à une question, la question précédente.
Oui.
Tu demandais est-ce qu'on était un journal engagé ?
Oui.
C'est quelque chose qui nous convenait. Je crois qu'il faut rappeler que tout journal est forcément engagé, quoi. Il n'y a pas les journaux mainstream qui seraient neutres, objectifs, etc. Et puis les journaux qui seraient un peu marginaux, qui seraient engagés. Non, pas du tout. Je veux dire, chaque journal, chaque média, dès le moment où il propose une parole publique, c'est une forme d'engagement, c'est une forme de vision qu'il apporte du réel. Et donc forcément que ça l'engage lui-même et ça engage une certaine conception des choses. Donc oui, je crois qu'on assume complètement notre côté engagé. Ce que devraient par ailleurs faire tous les médias mainstream qui trop souvent se voilent, se drapent derrière leur soi-disant neutralité, objectivité qui est complètement absurde. Et je crois qu'on la revendique même, quoi. Et ouais. Nous, c'est seulement essentiel d'être du côté des opprimés, d'être du côté de toutes les personnes qui sont dans une situation d'oppression, qu'elles soient à cause de la race, avec des gros guillemets évidemment, à cause du sexe, du genre ou d'autres situations sociales, quoi. Donc je crois que ça...
Ouais, j'ai bien compris. Et concernant, voilà, alors les désaccords, trouvent-ils leur place d'une certaine manière ? Est-ce que vous faites le choix de dire, bon, ben voilà, publions sans modérer des commentaires auxquels on pourra apporter des démentis, ou en tout cas une critique ? Ou est-ce que, non, on ne le fait pas parce que, effectivement, peut-être que c'est contre-productif et il n'y a aucun intérêt à le faire. Quelle est votre position et quelles sont vos pratiques autour de cela ?
Par rapport à ça, on apprend vraiment sur le tas. On ne s'était pas du tout préparé, en fait, à cette question-là parce que l'espace commentaire, pour nous, ça restait juste quelque chose au fond des articles qui n'allait pas être utilisé par les gens. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a eu des gens qui l'utilisaient. Et la première fois que c'est vraiment arrivé massivement, c'était pour un article
d'une action quelque part en Suisse écoféministe. Et on a eu énormément d'articles haineux qui ont été balancés en commentaires haineux qui ont été balancés. Et à un moment donné, là, on a fait un peu une cellule de crise et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on modère? Est-ce qu'on supprime que le négatif pour garder le positif? Ce qui plaisait en fait à personne, même si ça aurait été le plus agréable à lire sur le site. On a choisi finalement, dans ce cas-là, de supprimer complètement l'espace commentaire, tellement on était spammé de messages qui n'étaient pas du tout constructifs. Juste haineux envers typiquement les personnes qui étaient présentes à l'action et des critiques très sexistes par rapport au corps des femmes, etc. Donc on a mis un avertissement, on a mis un message sur l'article comme quoi on avait supprimé l'espace commentaire parce que c'était juste un défouloir pour des gros machos masculins, etc. Donc là, on l'a supprimé complètement. Mais de base, on part vraiment du principe que les commentaires sont ouverts à toutes et tous, parce que c'est vraiment ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des débats qui se créent, c'est que, comme on dit, comme on a entendu dire dans un reportage, un documentaire, la démocratie, c'est pas le consensus, mais c'est le dissensus. Et du coup, ben, c'est ça qu'on veut, c'est des débats, quoi.
Oui, on, tout à fait. Non mais voilà, c'est vers ça que je voulais vous entendre, c'est que il n'y a pas de censure, il y a de la survie. À un moment donné, il y a des propos qui peuvent être tellement diffamatoires, insultants, oppressifs, qu'on les supprime, non pas parce qu'on souhaite censurer une idée, mais parce que là, il n'y a pas le début d'une idée, quoi.
Exactement, ouais.
Donc c'est bien de le dire que vous faites ce travail-là, d'autant plus que quand je parle de survie, c'est effectivement en m'imaginant ça, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels les gens pourraient réagir immédiatement. D'ailleurs, j'ai une question à ce propos, on va voir si vous souhaitez la traiter ou pas. Je vous la pose parce que à Genève, ça a fait pas mal polémique, c'est la question de l'écriture inclusive et de son usage dans la presse. Alors le journal Le Courrier, par exemple, s'est déclaré, s'est déterminé ouvertement pour l'usage de l'écriture inclusive, ce qui a amené, là également, une polarisation, en tout cas, même de son lectorat, qui est pourtant quand même, je ne sais pas si vous connaissez Le Courrier, mais c'est quand même un lectorat plutôt bienveillant. Et que ça a quand même posé problème. Alors voilà, est-ce que vous questionnez par rapport à ça? L'écriture inclusive, par exemple, ça c'est quelque chose qui vous questionne lorsque vous publiez des articles?
Oui, je crois, clairement. On n'a pas de ligne là-dessus, ou que je me trompe? Donc en fait, chacun est un peu libre, et je pense que c'est très bien, chacun est un peu libre d'utiliser les formules qu'il veut. Après, quand il y a ce travail de relecture, on défend l'adresse des commentaires, où on peut dire, t'as choisi cette manière de faire, c'est pas homogène, est-ce que tu souhaites vraiment ça, est-ce que c'est un oubli? Ou peut-être dans un article où il n'y a pas du tout ça, on dit, mais pourquoi est-ce que tu le fais pas, etc. Perso, j'étais en lettres à l'Uni, donc c'est des questions... que j'ai d'abord abordé d'un point de vue assez conservateur, quoi. J'estimais que, c'est des questions de neutralité grammaticale, ça n'a rien à voir avec le genre, etc. Puis en fait, en discutant avec des amis qui avaient ce témoignage de, moi, je me sens exclu quand il n'y a pas l'inclusivité. Ça, t'es obligé d'entendre comme témoignage, quoi. Tu peux pas dire, moi, je connais la théorie, la grammaire, l'histoire de la langue française, tout ça. Donc, du coup, perso, j'utilise l'écriture inclusive. J'essaye, en fait, d'en jouer. Je crois que, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que ça permet d'avoir une sorte de malléabilité de la langue française. Des fois, tu peux l'utiliser, des fois pas. Et puis, tu peux créer des effets avec ça. Mmh. Et en fait, je trouve... Le problème que ça pointe derrière simplement la question de l'écriture inclusive, c'est simplement à quel point notre langue française, elle est tellement close sur des règles de grammaire, quoi. Et je trouve que c'est l'apport de cette question sur la langue inclusive, c'est qu'en fait, tu peux écrire un peu les trucs comme tu veux. Après, je comprends que pour des grands journaux, ça pose peut-être des questions autrement que pour nous, finalement. Et puis là, on est bénéficiaire de ça, c'est que finalement, il n'y a pas un lecteur qui va venir nous dire non, ou s'il le fait, en fait, on n'en a rien à, rien à cirer, quoi.
Ouais. Voilà, mais ça veut dire que c'est parmi les sujets qui vous questionnent.
Ouais, mais de nouveau, puisque on écrit vraiment chacun nos articles et puis qu'après on les propose, on les formate pas tous avant qu'ils soient publiés. Donc c'est pas des questions de fond, disons, c'est vraiment des questions de forme qui sont pas les plus importantes. Ouais. C'est vraiment un peu comme chacun le sent, quoi.
Ok. Alors voilà, comme tu l'as dit, ça c'est une question de forme. Alors allons au fond. Le Canard du Peuple, pour dire quoi et pourquoi faire ?
On pourrait résumer ça assez facilement. C'est surtout la volonté d'attirer les projecteurs, de mettre en lumière des personnes qui gémissent, qui souffrent dans l'ombre, donc d'essayer d'inverser ce rapport de force qui est construit par les médias mainstream. Et vraiment d'essayer d'être les porte-parole des sans-voix, d'essayer d'apporter des perspectives, des regards alternatifs, marginaux sur le réel, et puis dans une volonté de nourrir les événements politiques qui se passent, de nourrir aussi les gens qui nous lisent. Enfin, vraiment, je crois, un truc assez créatif.
Ok. Ouais, mais tout à fait, je vois. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou je passe à la question suivante ?
T'as parlé avant de... C'est toi qui avais déjà répondu à une question avant où t'as parlé de la lassitude qu'on ressentait vis-à-vis des médias, justement, parce que quelque part, on sent que les médias mainstream, les médias grand public... même si justement, et je pense qu'on va y revenir encore à cette question, même s'ils se cachent derrière une certaine neutralité et une certaine objectivité, en réalité on sent bien qu'ils véhiculent un certain point de vue, une certaine idéologie qui est l'idéologie dominante et du coup qui invisibilise beaucoup de situations, beaucoup de ressentis, beaucoup de points de vue qui sont minoritaires, mais qui sont pas pour autant illégitimes. Et il y avait cette volonté avec le Colvert d'apporter un peu un contre-discours et d'apporter un contre-point de vue par rapport à ça. Et puis il y avait aussi la dimension très locale ou localisée. De se concentrer sur Fribourg et puis d'essayer à notre manière et puis dans la mesure de nos possibilités de rassembler les différents mouvements et puis d'essayer de les faire discuter et peut-être converger. En tout cas, c'est un des objectifs qu'on avait en proposant cette plateforme aussi avec le calendrier en ligne, d'avoir un endroit qui centralisait un peu toutes les luttes dans le canton de Fribourg et tous les événements et toutes les actions des gens qui simplement essayent de défendre leurs droits, quoi, que ce soit les femmes, les personnes racisées, les personnes queer, les écolos, enfin il y a plein de choses en ce moment qui nécessitent de se battre et puis notre idée c'était d'essayer de donner un peu un aperçu de tout ce qui se fait et puis de centraliser un peu tout ça pour avoir un endroit de référence pour tous les gens qui se sentent concernés par ça.
Ouais. Très bien, merci beaucoup en tout cas, tout ça est très clair. Et effectivement, on va revenir, ce sera la première question pour la deuxième partie de l'entretien concernant la neutralité de la presse. Donc vous devrez un petit peu répéter ce que vous avez déjà dit, mais je vais essayer de lui donner un autre angle. Pour en terminer pour cette première partie, Est-ce que vous mettez une priorité sur l'actualité ou sur des articles de fond? L'actualité, ben ça, voilà, c'est qu'il faut une certaine réactivité, notamment quand on est proche des luttes sociales où ben il se peut qu'une grève tout d'un coup surgisse et puis on a envie de la couvrir et de donner la parole aux grévistes. Et donc voilà, on est dans l'action, dans l'immédiateté, mais il y a également ben voilà les idées de fond que l'on a envie de promouvoir et qui sont parfois complexes et qui nécessitent une enquête ou en tout cas des sources. Voilà, l'autogestion, qu'est-ce, etc., etc. Alors, est-ce que, comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de prioriser quelque chose par rapport à l'autre, ou est-ce que vous souhaitez justement pas trouver une sorte d'équilibre entre l'actualité, le côté vraiment combatif immédiat, et puis le côté article de fond et de réflexion?
Je pense que la question est intéressante, parce que c'est vrai que si tu regardes un peu les articles qu'on a publiés, il y a des trucs assez hétérogènes, en fait. En termes d'intentionnalité, on n'a pas de but précis, c'est-à-dire qu'on aimerait bien être le plus là possible dans l'événement, pour, comme tu dis, pour couvrir des événements, etc. Et puis, on aimerait aussi ben, qu'il y ait le plus d'articles de fond possible. En fait, là, on est un peu, on n'est pas énormément. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, ben, on les accueille grand ouvert. Et puis, on ne doit pas faire un tri, si tu veux. Mais c'est vrai que quand tu regardes les articles qu'on a, c'est très hétérogène. Et il y a clairement des articles. Ben, je pense, là, récemment, il y a eu un article sur la loterie romande, où c'est un article assez long. Peut-être qu'il sera pas lu par énormément de gens, mais par contre, enfin, il me semble que c'est vraiment ça amène vraiment ça soulève des questions de fond qui pourraient après inciter d'autres journalistes ou qui pourraient faire bouger les trucs, quoi. Et puis par rapport à ça, t'as d'autres articles qui ont peut-être beaucoup plus de vues en instantané, mais qui sont simplement, ben, je sais pas, raconter ce qui s'est passé X à ce moment ou etc. Et donc, je pense que là, il y a une dynamique un peu complémentaire qui se joue. Les deux sont cool, mais nous, on n'axe pas plus sur un thème que sur l'autre. Oui. Après, c'est clair que c'est un temps d'écriture qui est différent aussi, comme tu dis, quoi.
Oui.
Parce que dans l'instant, ben, t'as quelques jours, etc. Et puis, sur les articles de fond, ben, je pense qu'il y en a de ceux qui ont dû traîner quelques...
Ah ben, carrément.
Ouais, voilà, quoi.
Ouais.
Et puis, ouais. Ouais.
Alors, est-ce à dire que vous êtes toujours à la recherche de personnes qui pourraient vous rejoindre, et de quelle façon vous rejoindraient-elles? Est-ce que c'est plus des personnes que vous souhaiteriez voir au comité de rédaction, par exemple, ou est-ce plus des personnes qui vont, comme vous l'avez dit au début de l'entretien, ben, un petit peu dans leur coin, écrire sur des sujets dont on a compris dans quels univers eh ben ils se meuvent, mais de manière assez comme ça, à la manière d'un électron libre. Je vous pose cette question-là parce qu'effectivement, lorsque l'on parle d'articles de fond, on pourrait même considérer des chroniques, je sais pas, par exemple sur un bouquin. Là, on est dans les 150 ans de la Commune de Paris. Si quelqu'un tout d'un coup avait lu ben le Lissagaray, pour citer vraiment un sommet de ce qu'on trouve sur la Commune, et qui souhaiterait parler du livre, ben effectivement, ça fait des articles qui pourraient être longs. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche de personnes qui pourraient collaborer, et de quelle manière, de quel genre de personnes vous auriez besoin?
C'est une très bonne question. Un des souhaits qu'on avait, je crois, dès le début du projet, c'était surtout, c'était entre autres, d'être une plateforme où on pourrait republier, repartager des articles qui nous seraient envoyés. Donc, la première chose à dire qui est super importante, c'est que si n'importe qui a envie de travailler sur un sujet, encore une fois, en respectant cette ligne éditoriale, mais qui est quand même assez adaptative, qu'elle n'hésite pas à nous envoyer cet article. On a une adresse mail qui est disponible sur le site officiel. Et pour continuer sur le deuxième point que tu posais, que tu soulevais dans ta question. Oui, s'il y a certaines personnes qui sont vraiment motivées à rejoindre notre projet, qui ont aussi au fond d'eux cette lassitude face à ce que proposent les médias classiques en Suisse, ben qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer un petit mail, et puis ça nous fera vraiment grand plaisir de les rencontrer, et puis pourquoi pas de les intégrer à notre comité de rédaction. Enfin, on est vraiment ouverts. Et notre but, c'est vraiment d'essayer de partager un maximum d'informations sur un maximum de choses, quoi. Donc, vraiment, qui n'hésite pas.
www.lecolvertdupeuple.ch. Est-ce qu'on peut s'inscrire à une publication que vous envoyez aux gens, ou est-ce que les gens se rendent directement sur le site?
Alors, il y a la possibilité de s'inscrire à la newsletter depuis le site internet. Mais par contre, c'est une newsletter qui est vraiment
pas super encombrante dans les boîtes mail, parce qu'elle arrive de temps en temps, tout d'un coup, okay. On a d'envoyer une newsletter et puis on envoie un peu un petit condensé des différents articles qui ont été faits les derniers jours. Et ça permet à certaines personnes qui lisent beaucoup leur boîte mail et puis qui vont peu sur le site d'être au courant un peu de ce qui se passe, mais c'est pas du tout notre moyen le plus assidu de communiquer, en tout cas.
Ok.
Par contre, pour tous les amateuristes de Telegram, on a un joint chat qui est assez actif et qui propose un fil assez régulier et constant de tous les articles qu'on sort. Donc, s'il y a quelqu'un, quelqu'une qui est intéressé à être intégré sur ce chat Telegram, qu'il ou elle n'hésite pas à nous envoyer un petit mail et puis on va l'intégrer. On est déjà plus de 60, donc c'est cool.
D'accord.
Il suffit sur Telegram, je crois, de rechercher le colvert du peuple et on peut tomber gratuitement.
On peut en toute liberté.
Ouais.
À Fribourg, il n'y a pas vraiment d'endroit où tu as tous les événements qui sont au même endroit. Il existe en fait pas mal de collectifs, mais assez peu en contact. Des fois, ça m'arrive un collectif là qui est un peu qui travaille plutôt sur récupérer action, qui travaille plutôt sur des comment fournir à manger à des gens qu'on n'ont pas assez avec le coronavirus tout ça. Et puis c'est des trucs qui arrivent pas forcément dans les autres cercles militants. Et donc ça, c'était un des trucs à l'origine. On s'était dit, ok, il y aura ce calendrier, il y aura un espace où il y aura tous les événements. Et puis on aimerait bien que ça devienne. Alors là, il y a eu le coronavirus, donc il y avait très peu de trucs. Donc on verra comment ça se passe ces prochains mois. Mais on aimerait bien essayer d'en faire un peu l'espace où les militants vont se connecter parce qu'ils savent qu'il y a un peu tout qui est dessus, quoi. Mmh. Et puis du coup, peut-être, voilà, essayer de favoriser un peu la convergence, parce que bon, ben c'est clair, la convergence, c'est complexe, c'est abstrait, mais c'est nécessaire. Enfin voilà.
Non, mais voilà, c'est là-dessus que je voulais effectivement.
Ouais. Non, mais ça s'inscrit là-dedans à fond. Ouais.
D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, on passe à une deuxième partie qu'on va faire plus courte. À moins que vous souhaitiez, voilà, est-ce qu'il y aurait une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez souhaité répondre concernant stricto sensus le colvert du peuple ? Ou est-ce qu'on a fait pour cette fois-ci le tour ?
Coin-coin, ça va bien.
Bah, coin-coin, ça va parfaitement bien.
Nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal ! Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches !
www.libradio.org Libradio, la radio qui rétablit l'équilibre.